retour dans De Noir, deuxième partie d'émission.
Et toujours sur Agora Côte d'Azur, bien entendu.
Alors moi, je vais vous emmener dans un coin apparemment superbe. Je dis apparemment parce que je ne le connais pas, j'y suis jamais allée. Mais la lecture des deux romans de Mimmo Gangemi, je l'ai bien dit ?
Je pense.
C'est bien. Voilà, de Mimmo Gangemi aux éditions du Seuil, me donne juste envie de prendre un billet d'avion ou de prendre la voiture et d'aller en Calabre. Alors, le livre dont je vais vous parler ce soir s'appelle « Le pacte du petit juge » et il paraît ce mois-ci. Mais on peut commencer, parce qu'il vient de reparaître chez Point Seuil Policier, on peut commencer par le premier roman traduit, toujours aux éditions du Seuil, de Mimmo Gangemi, qui s'appelle « La revanche du petit juge ».
Et d'ailleurs, les deux sont traduits par le même traducteur.
Superbe traducteur, j'en reparlerai un petit peu à la fin, mais Christophe Mileski a fait un travail d'orfèvre. C'est vraiment une traduction, c'est la langue et l'écriture est un des grands atouts de ce roman, nonobstant évidemment l'histoire, mais la traduction, il a réussi certainement à rendre exactement ce qu'a voulu mettre comme ambiance Mimmo Gangemi, et donc vraiment c'est une traduction remarquable. Alors, je vais commencer par une lecture, je pense que pour rendre justice, et puis on va aller, parce qu'on est en Méditerranée, on va aller dans une oliveraie. Aux abords du village, il obéit à l'élan qui lui dictait d'aller faire un tour dans une oliveraie appartenant à sa famille. La mélancolie était devenue pesante, fastidieuse, proche de la souffrance. Et il n'avait pas envie de se présenter sous ce jour-là à sa mère, capable de le débusquer sur le champ de son regard clinique et de le soumettre au genre d'interrogatoire qu'on réserve aux auteurs présumés d'un attentat mafieux. Ces derniers jours, Marina était revenue hanter ses pensées. Mais il n'aurait su dire s'il s'agissait d'elle en personne ou du dépit d'avoir été vaincue. Parmi les oliviers, il se sentit mieux. Il retrouva la paix en se promenant sur les terrasses. On avait remisé les filets bariolés servant à la récolte. Un brin de vent épousait son visage, charriant l'odeur de l'herbe coupée, de la terre retournée par la bêche, des fleurs qui coloraient les champs, de l'origan en avance sur le calendrier grâce à la clémence de la saison, des fragrances musquées. Il se demanda si ce n'était pas lui qui voulait sentir ces parfums, alors même qu'il n'existait pas. Le fait est que le vent lui en apportait d'autres, que l'air ne pouvait contenir, lointains et oubliés. Celui de l'huile qu'on vient de moudre, celui plus pénétrant de l'oussoun ou grignoun, le marc d'olive amoncelé. Dans le sillage des odeurs, les souvenirs s'ouvrirent une brèche, lui, gamin dans le pressoir de ses oncles, les meules qui tournent et font piailler olives et noyaux. La presse qui écrase les scourtins couverts de pâte entre les disques d'acier fixés autour de l'axe central. L'huile qui coule comme de l'eau du jet d'une fontaine à plusieurs vasques et va finir sa course dans les citernes à hauteur du plancher. On offrait du vin à ses jeunes années. Dans un doseur, un petit verre bombé, à peine plus grand que ceux où l'on boit le rossoli et contenant exactement la quantité que les adultes boivent d'un trait. Il trinquait avec eux, prenant un peu d'avance sur son adolescence, tandis qu'ils étaient assis sur les bancs, entre le mur en pierre ou en chaux, à nu, et le rebord de la vasque où tournaient les meules. Alors je vais m'arrêter là, et donc on peut se demander qui c'est ce il qui va se balader dans l'oliveraie et qui se remémore son enfance.
Avant d'aller voir maman.
Donc, eh ben, il, c'est le petit juge. C'est le petit juge du titre, le pacte du petit juge. Et c'est
Il Giudice.
Il Giudice, Alberto Lenzi, qui, comme dans le précédent livre, La revanche du petit juge, ici est aux prises, alors je vais essayer de le prononcer correctement, avec la 'Ndrangheta. Mais il est souvent aussi...
Il faut faire un N aspiré, ce qui n'est pas facile.
Non, c'est carrément pas possible. Alors, je reprends ma phrase. Donc, il est emmêlé avec, aux prises avec la 'Ndrangheta. En plus, tu me fais la faire répéter. Mais aussi, il est empêtré dans sa vie personnelle et particulièrement, c'est démêlé avec le beau sexe. Et dès le début du roman, il manque une occasion de briller surtout devant monsieur le procureur qu'il déteste. Il y a une scène excellente au début. Il exècre ce procureur.
Et c'est réciproque.
Oui, c'est réciproque. Il voit disparaître sous ses yeux, carrément sous ses yeux, un chargement de cocaïne, pourtant très bien surveillé par les douanes et la police. Apparemment, une famille mafieuse qui la vole à une autre. D'ailleurs, le corps torturé d'un douanier semble corroborer les faits. Le douanier aurait été payé pour fermer les yeux et ainsi on aurait subtilisé la cargaison de cocaïne.
Un facilitateur, en quelque sorte.
C'est ça. Mais, se demande le juge et bien d'autres, quelle famille mafieuse, puisque la Ndrangheta, ah ça y est, je le dis bien, est organisée de manière très particulière en Calabre, quelle famille peut être coupable? Quel chef de bâton, alors les chefs de bâton, c'est ceux qui dirigent chaque famille, quel chef de bâton a osé piquer cette cargaison de cocaïne à une autre famille? Comme le dit Mimmo Gangemi, il y avait 1000 hypothèses possibles. On était sur les terres de la Ndrangheta, on pouvait passer l'arme à gauche pour des raisons qui, ailleurs, n'auraient causé qu'une rancune de quelques jours, une brouille silencieuse, une petite baffe. Elenzi a fort à faire. Cette histoire l'intrigue. Ce qu'il voudrait à tout prix découvrir aussi, ce sont les assassins de trois Noirs, trois travailleurs émigrés sans papier, pauvres parmi les pauvres. Ça le perturbe beaucoup. Parce que se peut-il que dans cette région d'ouvriers, de petites gens, la haine et le racisme soient omniprésents, soient si présents? Ça le perturbe énormément. Bien sûr, on suivra avec intérêt les multiples rebondissements de ces deux affaires. Mais en gros, ce sont plutôt la truculence, la cocasserie des situations et des personnages qui réjouira le lecteur. Certes, le propos est sombre. L'omniprésence de cette mafia calabraise, la violence, les corruptions, les trafics. Il faut savoir que le douanier, quand on le retrouve, il a été torturé et puis ensuite il a été passé sur la meule du moulin à olives. Donc c'est beaucoup moins romantique quand même que le passage que j'en ai lu, les oliveraies dans certains coins de Calabre. Mais dans ce livre, ce qui illumine, ce qui nous éblouit, c'est les couleurs. C'est la couleur qui l'emporte. Évidemment, là où c'est situé, le bleu de la Méditerranée et du ciel. Le vert des champs d'oliviers à perte de vue. Mais aussi le rouge de la passion qui entraîne régulièrement le petit juge dans des histoires sentimentales qui finissent toujours mal.
Et il y a les oranges des orangers.
Il y a aussi, oui, il y a beaucoup, il y a quelques orangeraies aussi. Dans les histoires sentimentales qui finissent toujours mal, hein, comme le dit Latin Chanson, il y a la très belle Chiara Allegri, je cite Mimmo, un petit bijou de magistrate, visage de madone et corps de diablesse. En fait, il tombe toujours sur des personnages, sur des femmes un petit peu comme ça, qui le prennent, qui le jettent. À moins que ce soit lui qui se fasse des illusions. Finalement, c'est qu'un homme, hein, donc on peut penser qu'il s'illusionne quand même beaucoup.
Sur les femmes, c'est sûr.
Voilà, je m'attendais quand même à une remarque de ce genre. Dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages secondaires. Personnages, là encore, haut en couleur. Il y en a un qui revient, qui était déjà dans La Revanche du Petit Juge. Il s'appelle Domico. Lui, c'est un chef de bâton. C'est un chef mafieux. Alors, on serait dans un film de Scorsese, je crois qu'on dirait un capot de tous les capots, c'est ça?
Un capi,
hein,
oui.
Un capi de tout.
Oui, sauf qu'en fait, l'organisation de la Ndrangheta, elle est plutôt horizontale que pyramidale.
Voilà, c'est ce qui fait sa spécificité. Apparemment, ça change beaucoup en ce moment, nous a-t-on dit. Donc, ce chef de bâton, il est souvent en contact avec Alberto Lenzi parce qu'il compte un peu sur lui pour régler quelques affaires que lui, en tant que chef mafieux, ne peut pas.
Pour la bonne raison qu'il est emprisonné.
Il est emprisonné, à un moment donné, il sort. Alors, il va raconter des belles histoires, des subtiles métaphores, en fait, pour capter certains faits au juge. Parce que lui, c'est un chef mafieux quand même, c'est un chef de bâton. Alors il veut pas être un, comme on dit dans les deux romans, un infâme. Alors les infâmes, c'est les salauds qui caftent. Alors lui, il cafte pas, il raconte des souvenirs d'enfance, voilà. Des métaphores.
Des paraboles.
Des paraboles. Lui, ce qu'il veut, c'est être, citation encore, un chrétien, un homme honnête, donc. Et puis, il y a petite cerise sur le gâteau, les notables d'un cercle des officiers, d'un endroit comme on n'en fait plus. En fait, il doit y en avoir quand même dans pas mal de villes de province, et en France, et en Italie. C'est un cercle ou un endroit où se réunissent un peu les notables, le pharmacien, le médecin, le noble désargenté. Et en fait, c'est tout simplement des commères patentées qui vont donc commenter tous les événements du village. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un autre point de vue, d'autres points de vue. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Et là, il y a des scènes qui sont
croquignolettes, voilà. On peut dire. La lumière, elle est dans la langue savoureuse qu'utilise Mimmo Gangemi, une langue ample, imagée, parfois râpeuse, parfois tendre, fruitée, acidulée. Et je vais refiler la métaphore, ainsi que les huiles d'olive que produit cette région. Comme je l'ai dit au début de cette deuxième partie d'émission, cette langue parfaitement traduite par Christophe Mileski, qui a su faire passer toutes les subtilités de l'écrivain, sans la lourdeur de notes de bas de page, merci Monsieur Mileski. Parfois des emprunts à la langue occitane, qui sont toujours bienvenus, ou parfois carrément, et vous l'avez vu dans le passage que j'ai lu, l'invention de mots, mais qui sont très très près de mots français ou de mots italiens qu'on connaît. Et surtout des mots dont la sonorité fait immédiatement sens. On comprend. Ben, marmoulé, mitounade, jaboté. Voilà, c'est des mots qui emplissent...
On les comprend d'autant plus dans le contexte de la phrase.
Voilà, exactement. Donc vraiment, voilà, précipitez-vous, ça vient de sortir. Le pacte du petit juge aux éditions du Seuil. Et si vous voulez commencer les débuts du juge Alberto Lenzi, comme on le dit dans le premier roman, un juge comme ci, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme jeu de mots ? Le juge, comment tu l'as décrit, toi ?
Le juge Cossard-Cravate.
Voilà, parce qu'il a un gros poil dans la main, quand même, ce juge. Le premier roman sort en édition de poche, donc chez Poinceuil Policier, et ça s'appelle La Revanche du Petit Juge.
De Mimmo Gangemi.
Voilà, un petit peu de musique maintenant.
Alors, on va changer du tout au tout, ça n'a rien à voir. On va écouter un petit peu de blues dans De Noir. Celui qui va chanter s'appelle Chicken Diamond. C'est un one-man band, c'est-à-dire il fait tout.
Il est à lui tout seul.
Il fait tout seul. Comme son nom ne l'indique pas du tout, il est originaire de Thionville, en Moselle, département 57. Il fait tout seul, je disais, donc, avec sa guitare. Il chante, il fait aussi un peu de basse, et les percus, il s'accroche le tambourin sur le mollet. Et c'est...
Ça me rappelle
vraiment...
Rémi Brica.
Oui, ou Ronan... qu'on avait vu en Bretagne, et qui va bientôt sortir son disque. Et voilà, c'est du bon blues, bien crade, bien gras, un peu métal parfois.
Rough.
Voilà, là c'est plutôt dans le sens blues. Et ça s'appelle « I feel so good ».
Yes, I feel so glad. It's really something new. Coming from deep inside. But it's gotta go out. I could run in the street. I could jump and shout. I feel so cool. Could wear a flower shirt. And with my sad shoe, couldn't keep from smile. Even that dirty blues, it would not make me cry, cause you know I feel so good, cause beyond your imagination. song, and I can't remember how was it before when I was not so well. Really can't figure out, cause I'm feeling good as hell, you know.
Chicken Diamond, elle feel so good. Il s'appelle Charles de son petit nom. Donc, et finalement, quand j'ai choisi ce disque, je pensais pas, mais ça va pas trop mal avec l'ambiance du roman dont je voulais parler, dont je vais vous parler. Un roman de Jacques Bablon qui s'appelle Rouge Écarlate et qui est paru aux éditions Gigal dans la collection Gigal Polar. Alors, l'an dernier, on avait parlé du premier roman de Jacques Bablon qui s'appelait Très Bleu. Celui-là, donc, c'est Rouge Écarlate. Dans ce roman, il va y avoir trois personnages dont les destins vont s'entremêler pendant les 170 pages du livre. Il y a tout d'abord Salma. Elle a la trentaine fatale, on va dire. Elle va tout déclencher simplement en mangeant une fraise.
Très bien illustrée sur la couverture.
Voilà, une très belle fraise. Et en mangeant une fraise avec la mauvaise personne, ce qui va y attirer quelques ennuis. Et c'est vrai que, imaginez, comment, si une femme mange une fraise d'une certaine façon, ça peut évoquer beaucoup de choses. Il y a Joseph, qui est le père de Salma. Alors lui, Joseph, il couche avec la voisine.
Comme ça, il n'y a pas d'évocation possible, c'est direct.
Depuis leur installation, laquelle voisine est mariée, bien évidemment. Depuis leur installation, quelque temps auparavant. Mais hélas pour lui, la voisine ne provoque plus en lui, comment dire, cet afflux de sang qui lui permettait de l'honorer pendant les absences du mari.
Il n'a qu'à manger des fraises.
Peut-être. Et le troisième personnage, eh ben, c'est le mari. Alors lui, il est vraiment pas net, hein, mais alors pas net du tout. On sent bien, mais il nous dit pas tout, Jacques Bablon, mais on sent bien que il trafique des choses pas vraiment claires qui vont aussi lui attirer des ennuis. Bref, ils vont tous avoir des ennuis. Et ça va s'enchaîner de façon assez étrange. Alors, pour faire le liant, évidemment, il y a deux autres personnages. Rosie, qui est donc la maîtresse de Joseph et la femme de Marcus. Elle n'est pas tout à fait nunuche, mais quand même un peu. Et il y a le petit Angelo, qui est le fils de Rosie et de Marcus. Et c'est un gamin très observateur. Alors, je le disais, on en parlait tout à l'heure au début, tout au début de l'émission, cette histoire semble se passer en France, mais aucun élément ne le précise vraiment. Et, comme on dit à Lunel, du rouge de la fraise au noir du polar, Jacques Bablon franchit le pas allègrement.
Il faut peut-être expliquer qu'en mars, s'est passé le premier festival de romans noirs
à Lunel,
qui s'appelait
Du rouge au noir.
Du rouge au noir, oui.
Et Jacques Bablon le fait très bien. Cette fraise dégustée avec délice va entraîner un chaos. De façon inexorable. On peut penser que dans ses lectures, Bablon aime beaucoup David Goudis. Mais il s'est fait son propre style, bien évidemment. Un style assez vif, qui ne laisse pas du tout de répit au lecteur. Alors il a une petite astuce de narration qui fonctionne bien. Il fait des phrases elliptiques du sujet. Donc ça enchaîne de façon très vite. Monte l'escalier, tourne à droite, sans dire Joseph ou Marcus. Donc ça accélère le rythme. C'est souvent assez violent, mais sans vraiment de complaisance. Il ne décrit que ce qui est vraiment nécessaire pour que l'on comprenne. Le reste, on est assez grand pour se faire les images dans la tête.
Oui, la fraise et tout, on a compris.
Cela va très vite, je le disais. Il y a juste ce qu'il faut de sexe, vous avez pu le comprendre, pour pimenter l'action. C'est poisseux sans être glauque. Bablon semble s'amuser avec sa personnage, s'amuser à les trimballer dans son histoire. On se demande si, quand il a commencé à écrire les premières lignes, s'il savait vraiment ce qui allait leur arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas les réutiliser. Jacques Bablon ne fait pas dans le récurrent, Même ceux qui ne défendent pas dans ce roman n'auront sûrement pas envie de revenir dans le vert ou dans le jaune, puisque comme il a fait le bleu et le rouge, on peut penser qu'il va faire d'autres couleurs dans ses prochains polars. Il voulait, mais pas non plus de message dans ses lignes, en fait. À part, en gros, mais un message qu'on le sait déjà, dans la vie, il y a beaucoup de salopards. Mais ça, évidemment, avant d'ouvrir le livre, on s'en doutait fortement.
Le roman noir est souvent là pour nous le rappeler, voilà. Mais bon.
Donc c'est un bon roman noir de divertissement, comme il fait bon en lire de temps en temps, avec dedans, et c'est plutôt rare, des gros morceaux d'opéra classique, car l'un des protagonistes, un des salopards, est un fan absolu de la Callas. Et il faut bien reconnaître que dans le roman noir, ou même dans le polar, c'est plutôt rare. Il y avait un flic de...
Il y a Xavier Marie Bonneau, voilà, qui avait un flic qui était passionné d'opéra. Voilà.
Mais là, carrément, c'est l'opéra et surtout la Callas. Donc voilà, c'est Jacques Bablon, Rouge écarlate, chez Gigal Polar.
Aux éditions Gigal.
Aux éditions Gigal.
Très, très belle couverture. La phrase est magnifique.
Ça, la couverture donne absolument envie de se plonger
et de manger
des fraises, bien évidemment.
C'est la saison.
En tâchant de le faire avec des personnes un peu moins
problématiques
que celle avec qui Salma mange sa fraise dès le début du roman.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Donc on va vous dire au revoir, chacun dans son coin avec un bon bouquin. Jusqu'à la prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.